va.
Ouais.
Retour. Retour. Luc. LC Radio Quetch. À Strasbourg. Super.
Et moi, tu m'entends ?
Super. Vraiment super. Je suis un peu trop fort dans le casque. Et on est avec eux. On est avec Julien,
salut.
Marc Lan, salut.
Salut.
Salut. Salut. Alors t'es descendu du plateau là, de Romainville.
C'est ça.
Le point culminant d'Île-de-France. Non, pas d'Île-de-France. Du 93.
Oui, oui. Mais c'est plus haut que Paris. Hein.
C'est plus haut que Télégraphe.
Ouais, c'est plus haut.
T'es 2 mètres.
De 10 mètres.
Ah, 10 mètres quand même. Ouais. Chez Julien qui a déménagé, il était presque au point culminant de Paris, vers Télégraphe, et il a déménagé vers le point culminant du 93, qui est un peu plus haut que Paris.
Mais à noter que c'est un même plateau tout ça.
C'est un même plateau, voici.
C'est juste une colline qui était historiquement la colline de Romainville, qui est devenue la colline de Belleville. Et cette colline, c'est une même topographie dont on peut faire le tour, notamment à travers une promenade des hauteurs. Et on met 5h30 pour faire le tour des belvédères qui structurent cette colline. Et elle est transpériphérique, cette colline. Elle ne s'arrête pas au périph', évidemment. Mais c'est, historiquement, c'est les villages de Romainville, Charonne et Belleville qui faisaient de la vigne, autre.
Mais du coup, le
attends,
point culminant...
On va juste s'installer différemment. Est-ce que tu peux te mettre plus... Comme ça, tu seras en face du micro.
Comme ça.
Voilà, super. Okay. Ça, c'est super.
Et le point culminant de Romainville, il est...
Il est au niveau du fort
l'adresse.
De Romainville.
Ah oui, c'est ça. Okay. Rue Sassou.
Là où il y a l'espèce de vaisseau spatial.
La tour.
La tour télé.
La tour télé armée aussi. Hein.
C'est... Armée.
Oui,
c'est l'armée, le fort. C'est la tour TDF, c'est le fort de Romainville.
Mais la tour télé qui n'est pas à Romainville.
Non, exactement. Elle est au Lila. Mais les Lilas, ils ont fait sécession il y a 100 ans de Romainville. Mais c'était historiquement Romainville. C'est pour ça que le fort s'appelle fort de Romainville.
Ok.
Ouais, c'était Romainville, en fait.
Il y a eu une guerre de sécession.
Non,
comme ça. Il y a eu
des Parisiens qui avaient des maisons secondaires et qui ont fait sécession par rapport au Pecno de Romainville.
Ouais. Et donc maintenant, il y a la base de loisirs de la forêt de Romainville.
C'est vrai.
Qui avant était la forêt de Romainville.
Et les carrières.
Et donc j'ai visité, enfin j'étais pas retournée depuis plusieurs années, et hier j'ai visité la base de loisirs. Incroyable.
C'est beau, c'est pas mal. Hein.
Ouais.
La passerelle, j'aime bien la passerelle.
Ouais, c'est particulier comme la nature par la fenêtre.
Non, t'avais pas l'air
si fan,
tout ça.
Ah oui, t'aimes bien être dans la forêt, toi, c'est ça.
Ah oui, j'aime pas être en dehors de la forêt,
ouais,
voir la forêt enfermée.
Ouais, je comprends.
Non, c'est vrai que celle-là.
Propose des panoramas.
Ouais.
On fera une petite discussion Corniche des forêts. Qu'est-ce qu'il y a?
Corniche des forts.
Si, il y a un truc qui tourne.
Il y a de la réverb, non dans...
Non, parce que celle-là, on ne sait pas. Mais... Non, celle-là est éteinte. Celle-là est éteinte. Et celle-là est là. Mais c'est tout. Non, on a... Normal, mais je sais pas pourquoi, c'est que tout à coup ça s'est mis à vibrer dans les casques.
Non, mais on va le baisser.
Non, il n'a pas été vibré. Il n'a pas été tourné. Enfin, depuis tout à l'heure, non.
Non, non. C'est juste qu'on a maintenant.
Mais effectivement, j'ai remarqué ça aussi.
Maintenant, on entend tout par la radio.
Bon, c'est la matinale, hein, c'est Radio PSG
c'est
Radio matin.
PSG
et
matin.
Salut Yaya.
Salut, ça va vous
Salut, on est en direct et en public. Salut Mina.
Mais vous avez fait tard aujourd'hui.
On a fait tard, on a fait tôt, on fait 24 heures. Bonjour, on a fait 24 heures.
Il y a même le chien qui est là.
Voilà, RM. Alors, RM le chien.
Il s'appelle RM.
Non, il s'appelle Rami.
Ah moi.
Mais comme
bon,
on enlève
Julien,
les voyelles.
Julien,
oui.
Julien. T'es pas là ni pour parler de la corniche des forêts, ni pour parler du chien, ni pour parler de l'acoustique.
Mais tout ça a un rapport, tout ça.
Tout ça a un rapport.
Bon, ouais.
Avec.
Avec Nadal. Alors non, mais c'est le nom d'un projet d'écriture que j'ai, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des Olympiades culturelles 2024, qui a rapport avec le territoire, puisqu'il s'agit de mettre un auteur en résidence dans un lieu sportif, dans la perspective des Jeux Olympiques, pour faire cette espèce de relier cette espèce de grand écart qu'il y a entre les intellos et les sportifs d'un côté, et dans la perspective des Jeux Olympiques, d'avoir un auteur qui est en résidence dans un lieu sportif. en relation avec une institution culturelle. Et là, mon projet s'inscrit dans cette résidence qui aurait lieu au Tennis Club de Romainville, en relation avec la médiathèque Romain Rolland de Romainville, voilà, et le 93, plus généralement, le département, pour écrire un livre qui s'appelle Nadal. Et Nadal, alors tout le monde sait ce que c'est que ce nom là, comme ça. Voilà, c'est ça. Ça dit quelque chose aux gens quand je dis Nadal, mais ce qui m'intéresse, c'est de rester un petit peu évasif, mais en tout cas à distance de la réalité de ce joueur de tennis dont on parle. Puisque moi, je suis fan de tennis, très clairement, j'adore ça, je pratique, voilà, pas aussi bien que je voudrais, mais j'adore ça. Et j'adore le jeu en règle générale, et j'ai toujours lié le jeu et l'écriture aussi, voilà. Et donc, je suis assez proche de l'Oulipo et tout ça. Et en fait, ce Nadal, c'est mon projet, c'est un peu, tu sais, comme quoi il y avait de quoi Sarkozy est-il le nom, tu vois,
ouais.
Je me rappelle plus son. C'était pas Badiou, c'était Badiou. Ouais.
Badiou.
Ouais. Et puis donc là, c'est un peu de quoi Nadal est-il le nom, voilà. Et alors, je ne sais pas de quoi exactement va parler. Si je sais que ça va parler du tennis, ça va parler de la relation entre tennis et poésie, d'une certaine façon, et écriture. Mais c'est aussi un petit ouvrage de consolation pour le quidam que nous sommes, qui reste au bord du cours. Voilà. Qui reste au bord du cours, en marge de la gloire, en marge de ces scènes de la gloire du cours Philippe Chatrier, par exemple, de Roland-Garros, où le gars, en l'occurrence, a triomphé 14 fois, comme on le sait. Donc, j'interroge cet écart. Qu'est-ce qui est entre nous, qui sommes au bord du cours, et cette scène glorieuse, médiatique, comme ça, qu'il incarne, de toute façon. Et qui...
Donc un manuel de consolation, se consoler de ne pas en être.
Pour montrer que dans cet écart, il y a aussi le plaisir, il y a aussi la satisfaction, il y a aussi l'épanouissement, voilà, l'épanouissement, etc. Et particulièrement à un moment où chez Nadal, il vient d'avoir un enfant, donc je pense que psychiquement, pour lui, c'est terrible, parce que son économie psychique est tellement orientée vers la perfection, vers la performance, etc., que je pense que l'énergie que ça va lui prendre, même mental, signe sa fin de carrière. Quoi.
Va transformer son jeu, signe sa fin de carrière. C'est son premier enfant.
Oui.
En même temps, Nadal, il a 34 ans, c'est ça ?
Il a 36.
36 ans, ouais, ce qui ouais. est quand même oui, voilà, c'est, assez vieux pour voilà, un joueur de tennis.
C'est pour ça que je fais pas une prédiction à Madame Irma non plus. Quoi. ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, mon projet, c'est sur la relation entre tennis. C'est aussi un hommage à ce gars qui porte aussi des valeurs au-delà du caractère de pancarte publicitaire qui l'est devenu pour les grandes marques voilà, qu'on ne citera pas de sport et compagnie et d'automobile. Au-delà de ça, le gars, ça fait 20 ans qu'il est sur le circuit, il n'y a pas une oreille qui a bougé, il est d'une humilité hallucinante. Le gars a toujours l'impression que c'est un maçon de Majorque, comme ça. Qui voilà, va au travail le matin, ça va être très difficile et tout ça. Donc il est déjà exemplaire pour moi d'un point de vue, je ne sais pas, moral ou voilà. Et puis du point de vue de la corrida qu'il représente, de sa performance voilà, en tant qu'athlète. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'interroger chez moi la fascination. C'est-à-dire d'où vient cette fascination ? Cet ouvrage, c'est plus une recherche du temps perdu. C'est une recherche du temps perdu. Qu'est-ce que t'as foutu à regarder la télé pendant si longtemps à voir ce gars triompher sur le cours ou à être au bord du stade, quoi.
Alors, elle est de quoi, cette fascination ? Des premiers éléments ?
Alors oui, il y a des éléments. Il y a des éléments qui sont déjà, je suis parti de quelques citations phares, et notamment une citation qui vient du jeu de paume, qui est tout simplement « qui va à la chasse perd sa place ». Donc je suis parti du jeu de paume qui, comme on le sait, est l'ancêtre du tennis. Et il y a ces citations qui lient le jeu de paume aussi au théâtre et à la poésie. Et c'est ça que je suis en train de découvrir dans ce sujet, c'est comment il y a un lien historique entre la naissance de la poésie classique et le jeu de paume. Notamment par la métrique, parce que la métrique, les pieds, le nombre de pieds qui permet le comptage au tennis, le 15, 30, 40, etc. Et puis le lieu, le jeu de paume est là où on fait du théâtre, voilà. À Fontainebleau par exemple c'était le cas. Et puis cette citation qui sont « qui va à la chasse perd sa plage », je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que historiquement c'est juste que dans le jeu de paume tu as des chasses au sol qui déterminent, qui sont des gagne-terrain, des systèmes de gagne-terrain. Et en fait, quand tu veux aller marquer un point, tu vas voir où le deuxième rebond de la balle a atterri, et ça va limiter ton terrain,
ton avancée.
À ce moment-là. Oui, le rebond autorisé sur le deuxième rebond. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ça s'appelle une chasse. Et donc, on change de côté. Il y a un côté serveur, un côté receveur. Et on va devoir gagner finalement ces points, ce 15, 30, 40, etc., pour aller. Donc on va à la chasse et on perd sa place puisqu'on change de côté. Voilà. Et ces chasses, ce système, voilà, il y a chasse 15, chasse 12, ça voilà. Mais j'aimais cette... Il y a d'autres expressions qui viennent du jeu de paume, par exemple, tomber à pic, épater la galerie, faire faux bond. Tu vois. Donc c'est des expressions qui m'intéressent parce qu'elles sont, ambiguës aussi. Elles sont énigmatiques, elles sont ambivalentes, etc. Donc, qui va à la chasse perd sa plage. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mouvement-là d'aller à la chasse pour... Qu'est-ce qu'on perd? Qui va à la chasse? Est-ce qu'on a une place? Qu'est-ce que c'est que cette place qu'on a qui fait qu'on va perdre si on chasse quelque chose comme ça, comme un trophée, comme un record, comme la gloire, comme je ne sais pas, n'importe quoi. C'est un travail sur ces citations. Et puis j'avais... parce que le sous-titre de Nadal, c'est donc qui va à la chasse perd sa place, entre gifle et rebond. Entre gifle et rebond. Et en fait, je commence ce texte, en tout cas, j'ai fait une première phase du travail qui était en Normandie, à la Maison de Poésie de Normandie. Et j'ai passé 2 semaines à écrire là-dessus. Et en fait, j'ai commencé par une description très précise du terrain de tennis. Voilà, donc du terrain de tennis. Et puis ensuite, de la gestuelle d'un coup droit. D'un coup droit. Gestuelle avec décrite de façon très précisément mécanique, etc. Et cette précision m'a fait rentrer dans un espace où tout d'un coup le court a un espace abstrait, un peu comme le dépeupleur de Beckett ou quelque chose comme ça. Un espace qui devenait abstrait, qui était une sorte de jeu de marelle sans ciel, hein, symétrique avec des traits, avec des lignes. Et je me suis demandé aussi, pour moi, de quoi cette... ce cours est la scène. De quoi ce cours est la scène? Et ça, finalement, ça a convoqué plein de choses, même de l'enfance. De l'enfance, chez mes grands-parents, il y avait un court de tennis à la propriété, on faisait des matchs dans la famille, etc. Donc ça a convoqué plein de choses de l'enfance. Et aussi, j'aime les contraintes. Et cette contrainte du court de tennis, qui est très précise, que j'ai commencé à décrire au centimètre près, elle définit un cadre. Et comme un archéologue, moi je travaille toujours un peu comme ça pour ce qui est de l'écriture, c'est que je dessine un cadre et puis après j'époussette le sol et puis apparaît une forme. Voilà. Et c'est un peu ce cadre, c'est un rectangle en l'occurrence pour le coup, qui est et où va apparaître ce propos que je ne connais pas encore complètement encore, bien sûr, qui s'appelle Nadal qui interroge cette relation. Voilà. C'est
Enfin, parce qu'on a perdu sa place. Qui va à la chasse perd sa place, qui n'est pas, qui ne veut pas dire quitter la maison. Si tu quittes ta maison, tu mets en danger ta position. C'est pas ça. Il y a qui va à la chasse perd sa place. Alors moi je pensais parce que tout à l'heure, la première fois que tu as parlé du jeu de paume, je croyais que tu parlais du bâtiment. Oui. Et donc de la réunion des tiers états.
Il y a ça aussi.
Qui au contraire ont dit nous ne sortirons d'ici que par la. Nous sommes ici par la volonté du peuple, donc nous avons une tasse par la volonté du peuple, et nous sortirons que par la France des canons. Je veux dire, après, je sais pas, ça résonnait presque à l'envers par rapport à qui va à la chasse.
Mais ça rejoint excuse-moi, un truc qui est que dans le tennis, il est question d'échange. Ouais. Donc on fait des échanges, donc c'est un lieu de joute qui est verbal, parce que tennis originellement c'est tenez, tenez, les Anglais disaient ça comme ça, tenez, donc, et c'est je t'envoie une balle, je t'envoie une parole, tu me la renvoies, etc. C'est le symbolique de l'échange. Et voilà, donc ça rejoint, tout, du moins quand on parle de jeu de paume, on peut très bien penser que le terrain de tennis est aussi une scène pour échanger.
C'est une scène d'échange et de dialogue.
Oui.
Parce que le jeu de paume se joue, contre un mur, c'est ça ? Non, c'est pas non, comme la pelote
non.
basque. C'est,
non,
c'est,
non,
c'est la comme
pelote,
le tennis.
La pelote basque est aussi un dérivé du jeu de paume, mais simplement elle se joue avec des murs. Avec des murs et avec des arêtes comme ça, avec un toit. Voilà, donc tu as le droit de jouer contre les murs. Ou en tout cas, sur un des côtés du jeu de paume, tu as le droit de jouer. Mais tu n'as pas de. Non, tu ne joues pas comme face au mur comme à la pelote basque.
Tu joues face à un adversaire.
Ouais, voilà. Il y a un filet, un filet lâche.
Mais d'ailleurs, il y a un dérivé du tennis que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le paddle.
Oui.
Et qui referme le court avec des genres de vitres en plexiglas contre lesquelles on peut venir taper.
Oui.
Et y a c'est les mêmes règles, à part qu'il y a ce... Qui est quand même un sport
c'est
assez...
C'est pas le squash
non,
c'est autre chose. Ouais.
C'est un truc qui se joue à 4, en double.
Ouais, c'est plus facile que le tennis à jouer.
Ouais, ça a l'air. Voilà.
Mais...
Il y a un truc, parce que tu parlais donc, je sais pas, de cette fascination, qu'est-ce qui me fascine, parce que tu choisis Nadal,
ouais.
t'en choisis pas un autre.
Non.
Donc Nadal, c'est le recordman absolu des victoires, c'est ça
À Roland-Garros, oui.
À Roland-Garros.
Il vient d'être rejoint par Djokovic, comme ça, au nombre de grands chelems gagnés, 22.
Voilà. Ok. Donc il y a ça, donc c'est, tu choisis ce joueur, est-ce que c'est un joueur qui répond plus que d'autres à des problématiques de métriques, de contraintes, de jeu? Est-ce que c'est un joueur qui est plus Oulipo qu'un autre?
Non.
Qu'est-ce qu'il fout là, quoi?
Qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est-à-dire que, bon, déjà, en France, il nous concerne directement, parce qu'évidemment, il a gagné... en région parisienne, là, vraiment le plus. Mais aussi parce que c'est, pour moi en tout cas, c'est personnel, c'est-à-dire que, mais je pense que plein de gens le partagent, c'est-à-dire que c'est aussi le plus émouvant pour moi.
Ouais,
un Federer, par exemple, est sublime esthétiquement, mais il est tellement facile, tellement fort, qu'il gagne avec facilité parfois, alors que Nadal, il gagne parfois dans la douleur, il gagne dans le fait de capacité à surmonter aussi la douleur. Il a été blessé très souvent, etc. Et aussi, Nadal, c'est la corrida. C'est-à-dire que c'est le plus dramatique pour moi. C'est le personnage le plus dramatique, à mon sens. Pour moi, c'est celui qui me touche le plus. C'est celui qui, tout d'un coup, quand je l'ai vu à Roland-Garros, dans le central, etc., jouer en Galat, tout d'un coup, il prend la lumière... T'sais, comme un acteur qui a une présence énorme, ou un chat sur scène, je sais pas, d'un coup il a une présence énorme, tu vois. Et donc c'est ce caractère dramatique du joueur qui m'a séduit, et puis aussi cette simplicité totale, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une admiration sincère, quoi, pour lui, même si mon texte devra faire en sorte qu'on ne parle pas de lui. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un ouvrage journalistique sur Nadal, on s'en fout. Il y en a 10 000, etc. C'est un ouvrage qui doit mettre à distance son objet pour arriver à une forme d'objectif, comme ça. De dire qu'est-ce qu'on dit à travers ça, et c'est plus un ouvrage, en effet, sur la fascination, sur qu'est-ce que c'est que regarder un écran, qu'est-ce que c'est que regarder un cours.
Oui, parce qu'entre toi et Nadal, parce que tu parlais d'être dans les tribunes et de regarder le terrain, enfin, donc dans cet écart entre le spectacle et le spectateur, la spectateur. Mais entre Nadal et toi, il y a surtout un écran.
Parce oui, que, dire, la
tu
plupart
l'as
du
plus
temps.
Vu.
Bah, bien sûr, j'ai plus vu à la télé qu'à Roland-Garros. Ouais.
C'est un élément important dans ton.
Oui, parce que c'est une icône. Hein. Parce que ça devient autre chose. C'est une icône médiatique. Mm-hmm. Comme une icône, c'est quelque chose qu'on voit à travers. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'il y a à travers pour moi, de façon très personnelle? Au-delà de ce côté icône du capitalisme aussi, d'une certaine façon, mais porteur en même temps de valeurs très humanistes. Donc c'est un peu un paradoxe. Mais je voudrais juste revenir sur ça. Il y a d'autres citations sur lesquelles je travaille. Hein, je te les donne. Alors, qui va à la chasse perd sa place. Mais je travaille sur trois autres citations, ou quatre, que je te lis, qui sont une qui donne un peu l'idée de ce que je te raconte là, et qui est de Cédric de Mangeau, qui est un poète qui nous a quittés il y a un an, qui était chez Flammarion, qui est très beau. Et il a écrit un livre qui s'appelle Une inquiétude. Et il a ce petit poème court qui fait « Oh le lob, le sprint, le passing shot et le retourné de la carabine. Un arrière-gauche marque de la tête, on perd dans les arrêts de jeu. Toujours difficile pour un espoir de s'imposer à l'extérieur. » Ça donne une petite idée de l'esprit de la chose. Un espoir qui s'imposerait à l'extérieur, qui va à la chasse par sa place. On est dans quelque chose comme ça. Il y a une citation de Ludwig Hall, écrivain fameux suisse du XXe siècle. « Pour trouver, deux conditions sont nécessaires. Premièrement, perdre. Secondement, avoir déjà trouvé. » Et enfin, évidemment, la phrase de Nietzsche « Tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort », qui s'applique très bien à Nadal. Voilà. Jamais battu d'une certaine façon, en tout cas jusqu'à avoir donné le maximum. Et puis la phrase de Beckett, bien sûr, « Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better ». Échoue encore, échoue mieux. Voilà. Et donc là, de ce point de vue-là, c'est plus un ouvrage sur l'échec. Hein, quand je te parlais d'être en marge de la gloire, sur le spectateur qui regarde, c'est qu'est-ce que c'est que ce lieu entre cet espace entre de la médiatisation, cet espace où on est au bord du cours, est-ce que c'est le lieu de l'échec? Moi, je crois pas. Hein. Moi, je crois pas. Je crois que voilà, il y a justement de la beauté, de la vérité à trouver dans ce lieu en marge, en bord, en bordure du périphérique ou en bordure du central. Mais donc, c'est un ouvrage en ce sens-là de consolation. Pour moi-même.
C'est-à-dire de remise en question de l'échec?
Oui, en tout
ou
cas.
Des notions d'échec, en tout cas de discussion de l'échec.
En tout cas, cette question de l'échec, elle se pose par rapport au jeu du tennis. Hein, et puis de considérer que l'échec peut aussi être quelque chose de très vertueux, de très porteur, qui a beaucoup de ressources à trouver dans l'échec. J'ai pas arrêté de me planter, tu vois, ma vie est une succession d'échecs. Non, mais je veux dire, donc, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait que aujourd'hui, peut-être que voilà, si je commets quelques œuvres, etc., je le ferai avec une détermination peut-être un petit peu plus claire et un tracé un peu plus net.
Et tu dois ces échecs.
Bah oui, l'échec, c'est le commun, c'est le quotidien.
Ça donne envie de regarder Nadal ou d'être sur un terrain de tennis.
Mais est-ce que toi, tu aurais aimé être tennisman?
Non, parce que c'est l'horreur.
Oui, ça a l'air. Hein.
Non, je pense que c'est. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des gens qui n'ont pas d'adolescence, ce qui est le contraire de moi. Moi, j'ai fait n'importe quoi, adolescent. Eux n'ont jamais eu cette chance.
Mais ça, c'est le cas de tous les sportifs. Je veux dire, les footballeurs, ils n'ont pas d'adolescence. Quand tu veux faire...
Tu n'as pas d'adolescence, tu n'as pas de jeunesse, puisque tu as un régime très strict, de sommeil, de rigueur, donc pas d'alcool.
C'est ça.
Un truc dit tout de
dit. Pas de sexe. Hein.
Peu,
parce que si tu baises en gros la veille d'un match, c'est pas bon quoi. C'est pas bon.
Il y a un truc de rigueur de vie.
C'est un truc là sur l'abstinence sexuelle des footballeurs. Non, pardon, c'est chez les boxeurs. Chez les boxeurs, c'est là, je crois, où il y a en tout cas une abstinence sexuelle qui est très très forte.
Ah oui.
Parce que c'est un mois avant un match.
Ah oui.
C'est pas une question de la veille ou une semaine. Non, c'est vraiment pendant un mois. Il n'y a plus de. Et donc ça fait. Voilà, on peut imaginer des relations comme ça, complètement contraintes par une pratique sportive et un entraîneur. Il y a un directeur au-dessus de ça, quoi. Quelqu'un qui. Il y a un surveillant général. Et c'est quoi, tu te souviens de ta première rencontre avec Nadal? Je veux dire, la première fois que tu l'as vu, enfin, je sais pas.
Oui, mais
il y a eu un truc. Non, c'est pas. C'est pas une fascination de toujours. Il n'y a pas eu la première fois que j'ai vu Nadal.
Moi, je me rappelle du premier Roland Garros avec Nadal. C'était incroyable.
Il était magnifique.
Ouais.
C'est-à-dire.
Je sais pas, il avait 20 ans, même 10, ouais. Et il a débarqué comme ça au milieu de joueurs qui étaient là depuis longtemps.
Et on a tout de suite vu que son potentiel.
Et il a
même
gagné.
Si on n'aurait jamais pu parier sur une telle carrière, mais disons qu'on savait qu'il allait gagner.
Et il a gagné.
Ouais. Oui, il a gagné. Le premier Roland Garros qu'il a fait, il a gagné. Et il les a tous gagnés derrière.
Et c'est quoi son truc?
C'est mental.
C'est mental.
Mais tu vois qu'il souffre quand même. Enfin,
c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, c'est quelqu'un. Mais c'est... moi, je suis d'accord avec toi. Il y a ce truc de fascination de cette personne qui est toute pleine d'humilité, mais de manière très sincère, pas comme plein de joueurs ou de sportifs qui font un peu le jeu médiatique. Lui, il y a un truc qu'on voit bien. Quand il s'adresse à son adversaire, quand il va parler, enfin il respire la compassion. Enfin,
c'est une humilité réelle.
C'est
quelque chose que aussi, c'est pas lui qui me l'a appris, mais j'ai compris que dans mon propre travail, il fallait que ce soit exactement pareil, parce que sinon on pète plus haut que son cul, on est ailleurs, on n'est pas au bon endroit, et résultat, on ne travaille pas, quoi. On ne travaille pas de façon professionnelle, quoi. Et ce côté, en effet, quand il va saluer son adversaire, etc., dit bravo, il vient de lui mettre une énorme branlée, mais il est sincère, quoi. Il fanfaronnerait à ce moment-là, il serait mort au prochain match, quoi.
Mais aussi, quand il gagne, il a cette sincère joie d'avoir gagné, alors qu'il gagne quand même hyper souvent. Et il est complètement humble. Et je sais pas, je me rappelle un des derniers matchs. Moi, j'ai regardé beaucoup, beaucoup le tennis pendant très longtemps, mais là, ça fait quelques années que ni je pratique, ni je regarde. J'ai un peu abandonné ça. Mais je crois qu'un des derniers matchs que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, son adversaire s'est blessé. Je ne me rappelle plus qui c'est.
Ah oui, Zverev.
Voilà, Zverev s'est blessé, mais d'une manière...
affreuse.
Et Nadal était dans une empathie, mais c'était hyper... Enfin, c'était horrible ce moment de tennis, mais Nadal a été vraiment... Enfin, comme d'habitude, quoi.
Ouais.
Il n'était pas du tout content de gagner, du coup, dans cette...
C'est affreux, parce que... Mais c'était ce contraste... Ce contraste, j'entendais parler de contraste tout à l'heure, ce contraste entre tout d'un coup ce moment, parce qu'il a tout fait pour lui péter la gueule d'une certaine façon, parce que ce match était extrêmement violent, extrêmement disputé, etc. Et puis en une seconde, le mec se pète la cheville, etc., et finit par terre et tout ça, et d'un coup, le mec est catastrophé alors que c'était un match de boxe.
Bah, c'est la représentation est rompue, enfin, je veux dire que le spectacle est rompu, on sort des codes.
Ouais.
Donc ça va pas parler de Nadal. Hein, tu vas parler d'échecs, tu vas parler d'écart, tu vas parler de fascination. Enfin, interroger la fascination.
Voilà.
Parler du cours. Enfin, à partir de ce rectangle qui est un cours de tennis et du rectangle dans le rectangle avec le cours dans la salle. Enfin, sur le terrain lui-même. Enfin, bon, tout ça, quoi, des choses très très. Précis, ça va pas être. Et donc, moi, je vais regretter que ce soit pas un portrait de Nadal. Mais je vais aller lire des trucs par ailleurs.
Oui, t'auras l'occasion.
Je vais me renseigner, mais j'aimerais bien.
Mais c'est juste, je rajoute une petite chose. C'est juste que je trouve que le terrain de tennis comme jeu. Moi, j'adore être sur un terrain de tennis. C'est un petit paradis pour moi, un petit paradis tout simple, tu sais, où tu joues. Et simplement, tout d'un coup, si tu réduis la vie à une forme à ce terrain de jeu, tout d'un coup, c'est une façon de jouer la problématique existentielle comme ça, mais dans des proportions acceptables, tu vois. Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'on ne déborde pas, on la cadre.
Ouais, ouais.
Si la vie était un jeu, ce serait plus simple, tu vois. Si le rapport à l'autre était d'avoir un adversaire au tennis, etc., ça serait simple, tu vois. Quand Sartre dit l'enfer, c'est les autres, moi j'ajouterais l'enfer, oui, c'est peut-être les autres, mais à moins de 10 mètres ou de l'autre côté du filet, tout ce que je veux dire. Mais c'est pas du tout. Mais en même temps, c'est absolument nécessaire, parce que sans autre, pas de partenaire, pas de jeu. Donc l'idée d'un cadre qui nous permet d'aborder cette problématique existentielle, je dirais, avec une forme de distinction, toute ancienne Angleterre.
D'ailleurs, en parlant de règles du jeu et de cadre,
ouais, c'est fini.
Il est l'heure.
D'accord. Bah, merci à vous.
Merci à toi. Merci beaucoup d'être passé. Ouais.
On a hâte de lire tout ça.
On a hâte de lire tout ça.
Je vais aboutir.
Peut-être que tu passeras à l'occasion à la matinale entre 7h et 9h de façon impromptue pour nous parler de l'avancée de ce truc.
Oui.
On est ici. Hein.
Super.
De nous lire des extraits.
Je te donne ça, comme ça tu peux lire un extrait qui est un brouillon, hein, mais tu vois, qui commence à la page suivante. Et tu verras, ça serait une première partie possible.
On la lira dans la journée.
Nadal, point d'interrogation. Voilà, et ben on va enchaîner. Merci Julien.
Bon courage.
On est là jusqu'à 9h du matin demain.
Je vais vous écouter alors. Tu peux rappeler où on peut vous écouter?
Alors, où est-ce que vous nous écoutez? Vous nous écoutez soit vraiment là dans le café en FM,
oui,
sur le 108, mais on n'émet pas à plus de 20 mètres.
D'accord.
Il y a la radio numérique terrestre, le DAB+,
okay,
station Pinode, mais surtout en ligne, p-node.org,
okay,
p-node. Si tu reçois les mails, à chaque fois il y a l'adresse.
D'accord.
Et voilà, tu l'as en streaming et tu peux nous écouter
pendant
jusqu'à demain 9h du matin.
Enfin 20h30, reste 20h30 de direct.
Bon courage.
Ouais, bah, cool,
merci, mais merci d'être passé, en tout cas,
merci,
c'est super.
Merci à vous.
C'est bien chouette.
Ah, voilà, c'est ça, je voulais regarder. Merci encore.
Salut Julien.
Merci.